Donc là, on démarre au grain 40, en l'occurrence, on va passer au 60, au 80, au 120 et au 220. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, en fait, l'aspect va changer. Je vous montre.
Ça va, je crois que je peux me lancer.
Bienvenue à toutes et à tous, c'est Émilie, la soifée des rêves accessibles. Je vous invite à prendre un virage à 180 degrés. Dans ce podcast, vous écouterez des parcours de reconversion professionnelle, voulus ou subis, de femmes et d'hommes qui m'ouvrent leurs portes un peu partout en France. Cette immersion est l'occasion de mieux comprendre les étapes de changement de vie et sûrement de vous livrer quelques clés loin des idées reçues qui permettent de se dire que tout est possible.
À 180 degrés.
C'est dans une marbrerie des Pyrénées-Atlantiques que je vous transporte pour une nouvelle histoire de vie. Si je vous dis ciselure, doucine ou encore feuillure, pourriez-vous deviner un métier? Élie Simonetti, lui, pourrait vous aider quand un amoureux de la pierre se met au service d'un précieux savoir-faire. Bonjour Élie.
Bonjour Émilie.
C'est au cœur du Pays Basque que nous nous rencontrons au sein de la marbrerie du Bourdieu, à Mauléon-Lichard précisément, où vous, pour moi, hein, c'est taper sur un gros caillou. Je ne sais même pas quel caillou.
Donc c'est un calcaire marbrier de la région. Et en fait, je suis en train de dresser la première face qui va me permettre de tracer la suite de mon caillou, les étapes que j'aurai à tailler.
Mais pour faire quoi au final ?
Alors là, c'est des encadrements de fenêtres. C'est ce qu'on appelle des jambages. C'est les morceaux qui sont à droite et à gauche quand on passe sous une porte ou une fenêtre.
Il faut dire qu'avant, vous étiez régisseur sur des plateaux de cinéma durant 5 ans. Mais parallèlement, vous étiez membre d'une association de restauration du patrimoine où là, vous avez eu une certaine révélation.
Vers la fin, je dirais les deux dernières années, petite carrière de régisseur, j'étais membre d'une asso de restauration d'un château médiéval à Brie-Comte-Robert. Et c'est là que j'ai découvert la taille de pierre et ça m'a très vite plu en quelques mois. Voilà, donc j'y allais de plus en plus souvent et j'ai commencé à me poser la question de comment je pouvais me reconvertir dans ce métier-là.
Vous avez quitté l'intermittence du spectacle pour vous lancer dans un CAP.
Et en fait, je l'ai fait en alternance, donc j'étais immédiatement en fait salarié apprenti en même temps. Donc j'ai pas bénéficié de financement extérieur, si ce n'est en fait la boîte qui nous embauche, qui finance notre formation. Mais je sais que pour les métiers de la taille de pierre en formation continue, où on n'est pas alternant, il y a énormément de formations qui sont financées par Pôle emploi, via l'AFPA ou d'autres centres de formation d'ailleurs. Après le CAP que j'ai fait à l'association ouvrière des Compagnons du Devoir, j'ai enchaîné avec un brevet professionnel spécialisé dans la taille de pierre pour les monuments historiques au CFA Saint-Lambert à Paris, en partenariat avec le lycée Hector Guimard. Et c'est une formation en fait unique en France qui a cette spécificité d'être axée vraiment sur les techniques de travail traditionnelles qui s'appliquent à la restauration des monuments anciens. Pendant ce BP, la première année, j'étais resté en Ile-de-France dans la même entreprise que pour mon CAP. Et à partir de la deuxième année de brevet professionnel, j'ai changé de région, je suis parti dans la Drôme. Et ça a été la première étape de mon tour de France qui continue jusqu'à maintenant.
Quelle satisfaction il y a à travailler la pierre pour beaucoup. C'est froid, c'est pas comme le bois, comme on dit, c'est chaleureux.
Moi, je trouve pas forcément que ce soit froid. Il y a des pierres qu'on dit froides, d'ailleurs. D'autres qui le sont moins, qui sont beaucoup plus grasses, avec un grain qui se laisse travailler plus facilement. Moi, ce que j'aime bien, mais c'est commun à tous les métiers artisanaux, c'est de partir du matériau brut, plus ou moins brut, et d'arriver à un produit fini qui est complètement différent. Et du coup, il y a cette satisfaction du « avant-après », entre guillemets. Et tout ce qui se passe entre les deux, c'est vraiment des étapes successives qui vont d'un travail assez brut de dégrossi jusqu'à des choses qui peuvent être assez fines, comme de l'ornementation. Voilà, dans les monuments historiques, le style gothique, entre autres, il y a des choses très très fines avec des réseaux, des arêtes très fines à tenir. La palette est assez large.
Et en parlant de palette, vous avez une trentaine d'années. Alors dès qu'on parle de tailleur de pierre, on pense forcément à la restauration de monuments historiques. On parle beaucoup de Notre-Dame en ce moment, mais ce n'est pas que ça. Dans cette palette, il y a aussi le funéraire. Là, actuellement, d'ailleurs, vous êtes dans une marbrerie. Quelle est la satisfaction qu'il y a de toucher à tout ?
Dans mon cas, c'est une vraie volonté en fait, d'aller voir les différents aspects du métier. Moi, j'ai été formé plutôt à la restauration de monuments historiques. C'est une bonne partie du métier, mais effectivement, il y a beaucoup de choses, vous l'avez dit, en funéraire qui se font. Également après pour du contemporain, de l'habitation d'aujourd'hui ou des projets même avec des designers, des choses comme ça. De plus en plus, en fait, les matériaux naturels reprennent un peu de la côte.
Élie, il y a un aspect fondamental au métier de tailleur de pierre auquel on ne pense pas forcément, c'est le dessin.
C'est un aspect clé du métier et de la formation de tailleur de pierre. De deux choses l'une, il y a le dessin, on va dire, entre guillemets, artistique, qui va permettre de faire de l'ornementation, des motifs de sculpture, des choses comme ça. Et il y a surtout le dessin technique. En taille de pierre, on appelle ça la stéréotomie. Ça veut dire la coupe des volumes en grec. Et du coup, c'est les techniques qui se transmettent depuis le Moyen-Âge, voire même avant, et qui permettent de concevoir des ouvrages appareillés en trois dimensions dans du dessin en deux dimensions, donc en plan. Et on fonctionne par des projections de vue, vue de face, vue de dessus, vue de côté, des coupes et ce genre de choses. Et en fait, ça, c'est l'aspect, on va dire, plus intellectuel du métier de tailleur de pierre, parce que ça va de choses aussi simples qu'un arc en plein cintre, et après on peut aller vers des coupoles, des ponts biais, des trompes, des ouvrages de plus en plus complexes, et là ça, c'est une recherche qui peut être même sans fin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les ouvrages dans lesquels on apprend ça, c'est des ouvrages qui datent du 16e, du 17e, du 18e siècle, et c'est dans ces ouvrages-là qu'on va aller chercher les techniques de représentation de ces monuments-là. Ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, mais c'est quelque chose de très important et très présent dans le métier.
Élie, alors on est devant un grand œuf de Pâques. Bon, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais un grand œuf de Pâques pour moi, tout strié.
L'œuf de Pâques, comme vous dites, ça va être une fontaine qui va être installée sur la place d'une mairie d'un village pas loin d'ici qui s'appelle Belloc. Donc la mairie nous avait fourni un modèle de quelque chose qu'ils avaient vu, qui leur plaisait, qu'on a un peu réadapté à notre sauce.
Mais alors la pierre en dessous, elle est toute polie, c'est la même chose ?
C'est la même nature de pierre. L'œuf est posé sur un socle, si on veut, et c'est le socle et l'œuf sont de la même nature de pierre, sauf qu'en fait, la finition n'est pas du tout la même. L'œuf est brut de sciage, on va dire, c'est fait à la meuleuse, et le bas a été poli jusqu'à un grain assez fin. Et c'est ce qui donne cette différence de texture.
C'est dur à faire ou pas? Parce que je me dis, je pourrais peut-être essayer de polir, au moins, je ne sais pas planter un clou, mais bon, ça je peux peut-être tester.
Oui, bien sûr, je peux vous montrer si vous voulez. Là, on a un morceau de la même nature de pierre avec laquelle on a fait l'œuf, et comme vous pouvez le voir, il a à peu près la même apparence que la partie du dessus. Et donc là, je vais prendre une petite meuleuse, que je vais faire tourner très lentement, et en fait on va venir la poncer avec des grains de plus en plus fins. Donc là on démarre au grain 40 en l'occurrence, on va passer au 60, au 80, au 120 et au 220, et vous allez voir qu'au fur et à mesure en fait l'aspect va changer. Je vous montre.
Ça va, je crois que je peux me lancer. Alors par contre, pareil, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais on commence à devenir des petits bonhommes tout blancs. Il y a une poussière.
Oui, on me le dit souvent. Ça, c'est vrai que quand on travaille avec ces outils-là, donc là, c'est électroportatif à sec, ça fait beaucoup de poussière, que ce soit ça ou les meuleuses. Donc voilà, après moi, au quotidien, je me protège avec des masques pour les voies respiratoires. Mais c'est vrai que c'est un métier où on dégage pas mal de poussière. Après, il y a d'autres machines qu'ils utilisent notamment en marbrerie, qui fonctionnent avec un réseau hydraulique, qui peuvent faire du ponçage aussi. Et là, dans ce cas-là, toute la poussière est canalisée en fait par le flux d'eau, et donc ça dégage beaucoup moins quand même de poussière.
Ok, donc là on change de grain ?
Ouais, rapidement, hop.
Hop. Bon, comment est-ce que je peux m'améliorer ?
Ah bah, faut continuer avec du grain de plus en plus fin. Là, on voit qu'il y a déjà une légère différence. Par exemple, on voit apparaître les détails de l'intérieur en fait, du caillou qu'on ne voit pas du tout au début.
C'est joli, hein.
Et en fait, plus on va monter fin, sur ce type de calcaire très dur qu'on appelle marbrier, en fait, qui viennent des Pyrénées. D'ailleurs, c'est la pierre de la région, c'est le calcaire d'Arudy qui a son appellation, un peu comme les granits bretons, etc.
Ouais, c'est gris clair.
Ouais. Et en fait, on peut monter jusqu'à un poli brillant, comme sur des granits ou du marbre. On l'utilise beaucoup dans le bâti ou dans le mobilier urbain.
Qu'est-ce que vous retenez de votre ancien métier qui vous est utile aujourd'hui ?
quelque chose qui saute pas forcément aux yeux, mais dans la régie pour le cinéma, on est beaucoup en fait en train de réfléchir à ce qui va se passer dans les jours à venir, parce qu'on change tout le temps, souvent de lieu de tournage, de dispositif, d'équipe, de nombre de comédiens, etc. Et en fait, je m'y attendais pas, mais je retrouve un peu ça sur les chantiers notamment. Voilà, un chantier, souvent, ça se développe sur plusieurs semaines, voire mois. Et à chaque étape correspondent des besoins en matériel, en consommable, en livraison, etc. Le côté régie permet d'appréhender ça plus facilement que quelqu'un qui n'a pas fait ça. Après, ça s'apprend, heureusement. Il faut être polyvalent et débrouillard.
En parlant d'être débrouillard, est-ce que je peux vous aider à faire quelque chose d'autre ou pas ?
Non, mais par contre, on peut faire le tour un peu des différentes machines et outils qu'on utilise. Voilà, on a commencé tout à l'heure par le travail traditionnel à la main. Mais la taille de pierre se résume pas qu'à ça, loin de ça même. Et ça peut être intéressant de voir tout ça.
Ok, on y va.
À 180 degrés.
Ce que je vous propose, c'est qu'on parte en fait de ce que tout le monde connaît, l'image d'Épinal, c'est-à-dire le ciseau et la massette, ce que vous m'avez vu utiliser tout à l'heure. Et en fait, dans les outils qui restent manuels, on a beaucoup d'outils électroportatifs. Donc tout ce qui va être meuleuse, etc., qui permettent juste simplement de gagner en rapidité sur des étapes de découpe basique ou plus ou moins poussé, ça dépend. On va aussi avoir tout ce qui est les outils pneumatiques, comme celui-là.
Ça va plus vite, hein ?
Ouais, ça va plus vite. Après, voilà, donc ça va être toujours dans les outils manuels. Ensuite, si on continue dans l'atelier, pour la partie marbrerie notamment, on va avoir tout ce qui est les outils hydrauliques qui vont servir à polir, comme on a vu, mais avec le réseau d'eau. Du coup.
Élie, que je comprenne bien, une fois que les pierres sont débitées des carrières, elles vous arrivent comme ça entre les mains. Quelles sont les étapes à suivre ?
Avant d'arriver sur le tasseau du tailleur de pierre, elles passent par plusieurs machines. Donc en premier, ça va être les débiteuses comme celles qu'on a sous les yeux. Voilà, ça c'est la première étape en fait, on reçoit les blocs débités de carrière, plus ou moins équarris mais souvent très très gros, et en fait on les passe à la débiteuse pour obtenir des blocs de plus petite dimension et avec des faces coupées d'équerre. C'est une espèce de grosse scie circulaire avec une arrivée d'eau permanente pour évacuer la poussière pendant la coupe, et voilà, et en fait on va la faire avancer tout doucement dans la pierre, comme je suis en train de faire là pour sortir une tranche.
Du coup, on passe à l'étape 2.
Après, ça dépend évidemment des projets, mais ça va être ce qu'on appelle une découpe au fil à profiler. C'est-à-dire que ce fil-là peut couper des tranches, un peu ce que faisait la débiteuse, mais on peut aussi lui rentrer en fait des contours de motifs, on va dire, des profils de moulures, en réalité, qu'on programme sur ordinateur, qu'on dessine. Et ensuite, avec une clé USB, on va les rentrer dans l'ordinateur du fil à débiter. Et le fil va pouvoir venir travailler des formes un peu plus complexes, comme des moulures, des biais ou d'autres choses.
Tailleur de pierre, c'est être aussi initié aux outils informatiques.
De plus en plus, c'est des outils qui permettent de gagner de l'efficacité et du temps. Heureusement, j'ai envie de dire, il y a toujours besoin que la main de l'homme intervienne à la fin, ne serait-ce que pour peaufiner les aspects finaux, etc. Mais c'est un aspect du métier qui se développe de plus en plus, c'est clair. Le fil, il a des pastilles diamantées et c'est ça qui va venir usiner en fait la pierre. Parce que le diamant naturel ou synthétique, là c'est du synthétique, c'est le matériau le plus dur qui soit. Et donc en fait, c'est le matériau qui permet d'usiner la pierre, même les pierres les plus dures, je dirais pas facilement, mais en tout cas efficacement. Et en fonction de ce qu'on lui demande de faire, en fait, la table sur laquelle est placé le caillou, elle va se coordonner avec le fil qui, lui, peut bouger sur un axe vertical. La table, elle peut se déplacer sur un axe horizontal. Et la combinaison des deux va faire qu'on peut venir détourer des motifs à peu près ce qu'on veut sur le caillou, en fait.
Ok. Donc, étape 3, maintenant ?
On va aller voir la machine à commande numérique 5 axes. Donc là, les possibilités sont assez grandes, en fait. On peut mettre tout un tas de têtes d'outils. Donc un disque comme celui qui est attaché là, qui est fixé. Mais après, on peut mettre des meules, on peut mettre des embouts diamantés, des fraises, enfin tout un tas de choses qui vont permettre d'usiner des formes beaucoup plus complexes. Et du coup, quand on dit 5 axes, comme le schéma là qui est sur le carter de la roue, c'est-à-dire qu'il y a un axe, il y a deux axes horizontaux X et Y, un axe vertical Z, et ensuite le disque, enfin l'axe de l'outil, qui n'est pas forcément un disque, peut pivoter sur lui-même à 360 degrés. Et du coup, par rapport aux machines qu'on a vues avant, on a beaucoup plus de possibilités d'usinage quasi infini.
Et Lille, le but, c'est de faire un tour de France pendant de nombreuses années pour apprendre à mieux appréhender et travailler les différentes pierres. Quelle est celle qui vous intéresse le plus ?
J'ai plus d'affinité, on va dire, avec les pierres qu'on dit dures. Un peu comme celle qu'il y a dans la région ici au Pays Basque, le calcaire d'Arudy ou le marbre des Pyrénées. Après, l'avantage du Tour de France, justement, c'est de changer de région. Et en fait, le sous-sol géologique est différent dans chaque région. Donc, on va tomber sur des types de pierres complètement différents. Par exemple, l'année dernière, j'étais en Mayenne, entre la Loire et la Bretagne, hein, grossièrement. Là-bas, il y a un calcaire très très tendre qui s'appelle le tuffeau, avec lequel sont construits les châteaux de la Loire. Et donc, c'est vraiment une pierre qu'avec son ongle, on peut déjà gratter et on va réussir à creuser la pierre. Ici, c'est complètement différent. Et justement, c'est des techniques ensuite spécifiques à chaque nature de pierre. On va la travailler différemment, avec des outils différents, et puis avec des méthodes d'approche du volume différentes aussi.
Donc il faut être autant technicien que géologue ?
Ouais, il faut être un petit peu géologue pour comprendre sur quoi on travaille.
Et est-ce qu'on peut bien en vivre ?
On en vit, ça c'est clair. On ne fera pas fortune en étant tailleur de pierre, ça c'est clair aussi, à moins peut-être d'ouvrir sa propre entreprise et de très très bien réussir, ce qui n'est pas impossible. On va dire qu'en tant que salarié, quelqu'un qui commence son apprentissage et qui est majeur, va commencer au SMIC. Et ensuite, chaque diplôme que l'apprenti va passer, CAP, brevet professionnel, et après il y en a d'autres, va lui assurer en fait automatiquement un niveau de qualification dans la grille des qualifications ouvrières, et donc avec un salaire minimum qui va avec. Et après, tout se négocie en fonction de l'expérience, de l'entreprise, des conditions, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, ici, après 4 ans d'expérience, je suis à peu près à 2000 euros net pour 39 heures avec quelques heures supplémentaires par semaine. Par rapport à la rémunération, le fait aussi de changer d'entreprise régulièrement, c'est un très bon moyen, c'est un conseil que je donne à ceux qui se lancent là-dedans, c'est un très bon moyen en fait de, à chaque embauche, renégocier un peu mieux ses conditions de travail. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est beaucoup plus facile de le faire dans ce cadre-là qu'en étant en CDI dans une boîte où là, pour le coup, c'est quasiment une faveur qu'on demande et non pas un accord qui se met en place dès le début.
Lily, qu'est-ce qui vous laisse le plus perplexe ?
C'est des ouvrages de l'Antiquité très reculés, des premières civilisations de l'humanité, où là, on a des ouvrages en pierre massive avec des blocs de dimensions énormes, de dizaines, voire de centaines de tonnes pour un seul bloc, et qui ont été hissés à des hauteurs de 10 mètres, 12 mètres, 20 mètres. Et ça, c'est vrai que ça me laisse admiratif et perplexe, parce que encore aujourd'hui, avec nos lasers, avec nos grues, avec nos scies, etc., on aurait du mal à réaliser ça. Ça me laisse rêveur quant en fait aux possibilités et aux techniques qui existaient à l'époque, qu'on a perdu depuis, et qu'on remplace aujourd'hui grâce à nos technologies, etc., mais qu'on savait faire avant autrement. Ce qui est marrant de voir, c'est que plus on avance dans le temps, plus on a réduit les échelles des blocs avec lesquels on construisait. Si on observe les monuments les plus anciens, si on prend dans notre région du monde, par exemple, les temples grecs ou romains, les éléments d'appareillage de pierres massives étaient assez énormes. Et en fait, aujourd'hui, si on prend par exemple l'architecture à Paris, le bloc standard, ça va être une assise, c'est une rangée de pierres, de hauteur de 30, profondeur de 40 à 60 et de largeur à 70-80. Et plus le temps passe, plus on a réduit, c'est un peu caricatural, mais quand même, plus on a réduit la taille des blocs pour faciliter justement la manutention, la pose et l'élasticité aussi du monument en lui-même. Le fait qu'il y ait plein de petits éléments avec des joints, on sait que c'est beaucoup plus résistant en général, c'est beaucoup plus élastique que des gros blocs monolithes qui ont moins de capacité à bouger sans péter, quoi.
Pour terminer, où est-ce qu'on peut vous souhaiter de poser votre baluchon ?
C'est une bonne question. On se la pose encore avec ma compagne, parce qu'on est deux, du coup, voilà, c'est une décision qui se prend à deux. Je ne sais pas trop ce que l'avenir va nous réserver. Peut-être qu'on va se sentir bien dans une région, qu'on n'aura plus envie d'en partir. Peut-être à terme monter ma boîte ou racheter un atelier qui existe déjà. Ou alors une embauche sur un super chantier comme Notre-Dame de Paris ou autre. Les possibilités sont multiples. Voilà, je ferme aucune porte pour l'instant.
Je vous souhaite un bon tour de France. Et puis bah, peut-être rendez-vous à Notre-Dame, alors on ne sait jamais.
Peut-être, j'aimerais bien, ouais.
À 180 degrés.